On est pas mal.
Ok.
On est pas mal.
Ça, c'est, ça sera juste le début, tu mets quand elle chante.
On se balandera en Birkenstock, ce sera le fun.
Et... Je suis team Birka, calme.
Et...
Je trouve ça.
Et là...
Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sabine, comment tu vas?
Ça va super bien.
C'est cool d'être avec toi, t'es prête? T'es motivée? T'as pu relire tes notes et...
Alors, motivée, ça va, tu vois, prête. Je vous explique un petit peu le contexte. J'arrive, il me dit, vas-y, on va filmer. Je dis, ok, quelles sont les questions? Il me dit, bah, tu vas voir. Du coup, on est en mode freestyle. Mais... Bon, il faut savoir que lui, du coup, il a eu beaucoup plus de temps de préparation.
Non, ça, c'est un mensonge.
Genre, sa vie.
Ça, c'est un mensonge. En fait, vous n'avez pas été beaucoup à nous envoyer des questions quand on vous a demandé des questions. On a reçu des questions ici ou là, plutôt séparées, DM ou quoi, mais répondez sur les posts. Ne faites pas que de liker parce que du coup, ça
petit
aide.
Petit timide.
Oh, c'est ça. Mathias, qui en plus de ça fait staff pour nous depuis les États-Unis, me dit avec un décalage horaire, il n'y a toujours pas de questions. Alors, merci pour ceux qui nous ont écrit en privé, on apprécie. Mais les gars, n'hésitez pas, ne soyez pas timides, ça nous permet de mieux nous préparer. Mais c'est vrai, très last minute. Avant qu'on plonge dans quelques questions qu'on a reçues, ouais, ou qui nous ont été communiquées par un grand nombre de personnes, deux choses que vous devez savoir. Tout d'abord, si vous entendez des réactions autres que les nôtres, c'est parce qu'on a un petit public aujourd'hui. Faites du bruit, voilà. Voilà, voilà. Donc, on n'est pas seul sur... ça nous donne aussi à nous un petit peu de motivation et puis de contexte. Et puis, la deuxième des choses, merci à tous ceux qui nous écoutent. Il y a eu un post dans la saison pour savoir d'où est-ce que vous nous écoutiez.
C'est juste.
Et alors, il y a des gens de Los Angeles, à ne pas confondre avec Los Angeles. Il y a des gens de... Non, il y a des gens de Lausanne, il y a des gens de Genève, il y a des gens de différentes régions de la Suisse, il y a des gens du canton de Neuchâtel, il y a des gens de France, il y a des gens de Belgique. Et je crois qu'il y a aussi des gens à l'international, je ne sais plus exactement si c'était Mexique ou quoi, qui m'a dit ça, mais c'est nice, non?
C'est ouf, ça fait plaisir. Alors Mexique, on questionne, mais pour le reste, vraiment avec cette dimension de vouloir faire voilà, tous ces podcasts, qui est plus qu'un podcast, hein, l'extrême leadership, aussi les conférences qu'on fait, vraiment pour amener du contenu pour la francophonie en général.
C'est ça.
Bah, du coup, c'est cool de voir que ça sort aussi de juste nous, notre ville, 10-10 représente. C'est les Lausannois qui comprendront, mais que ça va même au-delà des frontières, et si ça peut vous être utile, ben, c'est vraiment l'idée, donc trop bien.
Elle a représenté son quartier quand même. 10-10 représente, elle l'a glissé comme ça, je représente mon quartier.
Inception.
Et on va se plonger dans les questions, c'est aussi le dernier épisode de cette saison, donc on est au tout début de l'été, profitez de l'été, et puis ça c'est un peu notre façon à nous de terminer, de clôturer cette saison, restez connectés pour la suite. Mais avant qu'on s'arrête, quelques questions, et on commence à une question pour toi, Sabine.
Allez.
C'est une question d'équilibre entre l'amitié et le leadership. Donc, comment bien gérer la dimension d'être en position de leadership avec des amis, ou alors d'être dans une équipe où un de nos amis est en position de leadership? Comment est-ce qu'on manage ça? Est-ce que c'est facile? Quels défis? Quels conseils tu peux donner?
Ouais, chaud. Alors déjà, il y a deux questions. Il y a, parce que t'as la version où je suis sous le leadership de quelqu'un, mm-hmm, et la version je lead quelqu'un.
Ouais, c'est
donc,
vrai.
Donc c'est, je pense déjà, très différent,
okay,
dans la façon dont on va répondre à cette question. Donc dans l'option où, option 1, je lead et j'ai des gens sous moi qui sont des amis, mm-hmm, dans cette option, il y a deux versions déjà. Attends, moi je fais des clés dans des clés, on est comme ça dans les trucs, ouais. T'imagines l'organigramme.
Dans cette question, il y a deux réponses.
En fait, j'explique.
Dans ma première réponse, il y a deux réponses.
Soit t'es déjà ami avec les personnes.
Ok, ouais.
Tu vois, depuis de longues dates et tout. Soit c'est en lidant, t'as un projet en commun, ça peut être une gestion de projet même au travail, ça peut être dans le cadre de l'église, ça peut être, voilà, plein de choses différentes. Et en fait, à force de rencontrer la personne, tu deviens ami.
Ok.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
donc,
ouais,
je suis déjà ami ou je deviens ami. Alors, dans l'option « je deviens ami », je pense que c'est un tout petit peu plus facile, dans le sens où il y avait déjà cette... je sais pas si le mot « distance » il est très juste, mais cette compréhension de... On peut mettre les tirer hiérarchies, hein, si on passe, mm-hmm, dans un monde très professionnel, ou le pouvoir décisionnel peut-être, ouais. Celui qui va venir donner la vision, c'est déjà très clair, c'est posé. Et donc il y a déjà en fait cette compréhension des deux personnes sur comment travailler l'un avec l'autre. Et puis ensuite il y a une amitié qui vient. Et puis ça peut en fait venir renforcer la chose. Ça peut aussi venir la compliquer si par exemple il y a un conflit. T'as fait tout un épisode sur la gestion de conflit. S'il devait avoir un conflit, comment tu fais avec cette dimension amitié en plus?
It gets tricky.
Et là, c'est un petit peu tricky. Mais je pense que voilà, y a déjà ce côté, en fait, on sait travailler l'un avec l'autre parce qu'on s'est connus dans un milieu qui est comme ça. Et donc, ça peut aussi simplifier. Moi, j'ai eu par exemple l'exemple de. J'étais dans un job ancien où je gérais une équipe et puis en fait au fil du temps en fait ces gens sont devenus mes amis. Mm-hmm. Et je pense qu'il y avait déjà en fait un respect mutuel bien sûr, mais aussi de moi dans mon rôle de leader, ce qui a fait que il y avait aussi cette compréhension quand il y avait de la gestion de conflit, quand il y avait la possibilité de faire des brainstorming où en fait on connaissait déjà l'autre, comment il travaillait et voilà tout ce que j'ai dit. Et puis maintenant dans l'option où en fait on est déjà amis et là, on doit gérer un truc ensemble. Je pense que c'est plus délicat et j'ai envie de dire... Moi, c'est mon mari, il me dit souvent ça. Il dit, il faut faire la part des choses. Mmh. Et ça paraît un petit peu sympa comme question. Fais la part des choses. C'est la citation, tu mets au mur, j'en sais rien, comme tu veux. Mais toi, tu dois pouvoir faire la part des choses en disant, ben, là, j'ai ma casquette où je te parle en tant que leader, en tant que décisionnaire, en tant que visionnaire. Et là, je te parle, en fait, on est en train de prendre un café et on va parler de la vie. Mais cette maturité-là, elle est aussi du coup, et c'est pour ça que je disais, il y a deux facettes pour prendre la question, elle doit aussi venir de l'autre. L'autre, il faut aussi qu'il ait cette maturité en disant, ah ben en fait là, il m'a parlé comme mon leader. Là, il m'a parlé comme mon ami. Donc je pense que la phrase clé, c'est, on doit réussir à faire la part des choses.
Dixit Mathieu.
Il est là. Et ça, je le dis parce que moi, je sais que c'est un truc qui me travaille souvent où moi, je suis aussi très dans l'émotionnel. Des fois, je suis là, non, mais ça m'a... Et puis Mathieu, il va venir. Mathieu, donc mon mari, il va me dire, fais la part des choses. Mm-hmm. Là, il t'a parlé en tant que, je sais pas, directeur. Là, il t'a parlé en tant que... Et autant, moi, je dois faire cette part des choses quand je suis sous quelqu'un. Bah, prenons l'exemple de toi, Yves.
Okay.
On est amis dans la vie. Yeah. Mais dans le cadre, par exemple, de Home, notre église, eh ben, t'es mon leader. Et donc, je pense qu'en fait, on doit, par exemple, entre nous, réussir à faire la part des choses. On a plein de discussions. Et des fois, d'ailleurs, moi, je démarre les conversations en disant, là, je te parle en tant que nanana. Là, je te parle en tant que nanana. Pour qu'on puisse aussi, justement, faire cette part des choses. En fait, et on va sortir de ce bureau, on va être potes, on va faire la vie ensemble, on va aller se faire prendre un café, ce que tu veux. Mais là, en fait, au bureau, on a dû traiter d'un sujet et on n'était pas d'accord. Et on va se dire les choses comme employé ou employeur. Donc voilà, je dirais, je me suis beaucoup répété, mais je pense faire la part des choses. Je ne sais pas si tu peux peut-être compléter avec...
Non, je pense que c'est juste. Et puis, pour le coup, parce que dans ta réponse à multiples étages, il y avait aussi cette idée de qu'est-ce qu'on fait quand on est en sous le leadership d'un ami. Et je pense que c'est la même réponse, en fait, faire la part des choses. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais de pas avoir peur peut-être de reclarifier dans quel contexte ce qu'on est en train de discuter. Et puis je pense que des fois c'est difficile de complètement faire la part des choses. Des fois on se mixe un peu, ça arrive entre nous aussi. Mm-hmm. Puis on revient après en disant ok, je me suis trompé, je suis parti sur le terrain de l'amitié, on est dans le terrain professionnel, on remet un petit peu le cadre, mais c'est principalement ça.
Mais je pense qu'il y a une réalité aussi qui fait que en fait tu peux te blesser beaucoup plus rapidement. Tu vois, quand t'es fâché contre ton patron, bah t'es fâché contre ton patron, quoi.
Non, mais c'est son rôle de fâcher.
Ouais, tu vois. Par contre, quand t'es fâché contre un ami patron, ben, ça peut être beaucoup plus blessant. D'où le fait que je pense surcommuniquer, ça demande, enfin, même je reprends notre exemple, vu qu'on est là, hein, on a dû se poser combien de fois sur ces dernières années en disant, mais en fait, là, ce que t'as dit, là, ça m'a vraiment affecté parce que, et puis toi, tu dois peut-être revenir, ou moi, en disant, mais là, en fait, c'était ce contexte-là. Et ça va demander. Plus de meetings et les choses de mettre à plat, mais ce qui permet aussi d'avoir une relation plus saine et forte sur le long terme.
J'aime ta réponse. Well done.
Yes. Alors là, on a une petite ligne en rose. Ça veut dire que c'est moi qui dois poser la question.
Vas-y.
Tu m'as quand même mis en rose, mec.
Il fallait des couleurs qui se distinguent.
Ok.
La prochaine fois, je mettrai en bleu. Je sais pas. I don't know.
Non, rose, c'est cute.
Ok.
Alors, question très spontanée comme ça. Franchement, c'est du freestyle. Hein. Alors, comment changer des gens d'une équipe qu'on a hérité? Et la question, c'est dans le sens, comment, bon, c'est un peu trash à dire, mais se débarrasser de gens d'une équipe que t'as hérité, tu vois, tu hérites d'une équipe et t'as quelqu'un qui dit ça fit pas.
Ouais.
Comment tu fais?
Je pense qu'une des choses qu'il faut déjà... Il y a... Parce que c'est Yves qui répond, il y a toujours trois choses. Non, c'est pas vrai, parce que des fois, j'aurais pas trois points. Mais...
C'est rare.
Pour moi, le premier des éléments, c'est juste de réaliser que souvent, il y a une forme un peu de routine puis d'habitude qui se met en place. Donc des fois, quand on hérite, quand on arrive dans une nouvelle responsabilité, on reçoit une équipe, puis dans cette équipe, il y a une part de routine. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais alors que nous, on arrive peut-être avec un regard frais, peut-être avec des nouveaux objectifs ou quoi, mais en fait, on doit un petit peu dépoussiérer certains éléments de routine. Et ça, je le dis pour dire aux gens, il faut faire la paix avec ça, en fait. C'est OK de venir challenger certaines routines. Il y en a qu'on doit changer, puis il y en a qu'on doit juste aussi comprendre, et puis peut-être elles sont très bonnes, ces routines-là, puis il n'y a pas à les changer. Mais ça, c'est le premier élément que je dirais. Quand on arrive dans une équipe, on doit réaliser qu'on hérite une équipe, on doit réaliser qu'il y a des routines, puis venir les challenger. La deuxième des choses, c'est que je pense que, bah pour le coup, profiter d'aller réécouter l'interview que les derniers épisodes, en fait, avec Christian Kuhn, on parlait un peu des équipes et puis de changer les gens ou quoi. On est dans un contexte où des fois, on comprend mal ce que ça veut dire que l'équipe, puis la raison de l'équipe, puis des fois, il y a des bonnes raisons d'arrêter certaines choses dans les équipes. Puis je pense que dans le contexte peut-être particulièrement chrétien, on a l'impression que... on doit toujours tout faire ensemble. Et si on ne fait pas toujours tout ensemble, il y a un problème. Alors que la réalité, c'est qu'on est dans le même royaume. Et puis on peut, par moment, pour des questions de saison, changer d'équipe. Puis je pense faire la paix avec ça, ça vient aider. Mais finalement, ce que je dirais, comment est-ce qu'on change les gens d'une équipe qu'on a héritée ? Ben, on les change d'après certains standards et certains cadres qu'on veut mettre pour cette équipe. Et moi, ça m'est arrivé une fois où je suis arrivé. J'ai hérité d'une équipe qui était assez large avec beaucoup de... C'était des équipes que j'ai héritées. Puis j'arrivais en disant, j'aimerais qu'on mette une culture qui soit commune entre les équipes. C'était dans un contexte où on s'occupait d'enfants de 0 à 25 ans. Donc différents groupes.
Large.
Ouais. Et puis différents groupes. Puis j'étais là, en fait, même s'il y a différents groupes, puis il y aura des cultures, puis des façons de faire pour chaque groupe, j'aimerais qu'il y ait une culture commune pour tout ce qui se passe au niveau de l'enfance. Et puis j'aimerais que nous, dans notre engagement, on ait une culture commune. Puis en fait, j'ai pas changé ou je me suis pas débarrassé des gens basés sur mon ressenti personnel, mais plutôt basé sur une culture qu'on aimerait vivre ensemble, une direction dans laquelle on aimerait aller. Puis c'était plus, pas moi qui disais aux gens, vous devez partir, mais plutôt, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fonctionne selon ces standards ? Puis si vous n'êtes pas d'accord, en fait, ben là, il faut prendre une décision.
La porte est là.
Non, mais c'est ça.
C'est vraiment ça. Comme dans les films, tu vois.
Et encore une fois, je m'appuie sur le deuxième point, c'est pas forcément un échec.
Ouais.
Et dans ce contexte-là, il y a des gens qui ont arrêté de faire de cette manière-là, mais qui n'ont pas complètement arrêté non plus. Donc, je pense que c'est... Je pense qu'il faut faire la paix avec ce fait que des fois on peut arrêter
les équipes. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. En fait, ça veut pas dire qu'il y a un arrêt ou un stop, que c'est un échec.
Yeah.
On a une mauvaise définition. En fait, c'est peut-être même un succès parce que ça permet et à toi et à la personne de pouvoir mieux avancer et discuter.
It's good.
Ça veut dire c'est bien.
Ah, c'est bien. Merci. Merci pour la traduction. Pour tous les non-anglophones, it's good. Ça veut dire c'est bien. Troisième. Mais bah, fait par nous. Troisième question pour toi, Sabine. Comment manager quand le temps et du coup la motivation ne semblent pas être au même niveau dans une équipe ? On est toujours dans l'équipe ici. Tu vois qu'il y a des gens qui sont à fond, qui veulent foncer, qui font des nuits blanches pour des projets ou quoi. Puis toi, tu dis en fait, moi j'avais prévu une demi-journée par semaine, je reste dans ma demi-journée par semaine.
Ouais.
Comment est-ce qu'on gère un petit peu cette dimension-là, cette différence-là ?
Bonne question, hein.
C'est là où vous comprenez pourquoi on vous dit c'était un peu freestyle.
On découvre un des spots. Mais en fait, je pense que trouver cet équilibre entre dire aux gens qui foncent trop, par exemple, en disant « Hey, oublie pas les autres », tu vois, genre « calme-toi », prends-les avec toi, donne-leur cette motivation, mais sans non plus que ça les freine. C'est des gens, en fait, qui sont surmotivés, c'est aussi des fois des momentum, tu vois. Ça peut être un projet qui leur fait vibrer, ça peut être une saison de vie qui fait qu'il y a peut-être plus de temps disponible pour penser, avancer, faire des heures supplémentaires, ce que tu veux. Et il faudrait pas que ça freine, mais en fait, dans leur... surmotivation, ça peut amener une surdémotivation pour d'autres.
Ouais,
tu vois, genre si t'es à côté en mode « Ah, je sers à rien, de toute manière, lui, il fait tout. » Enfin, vraiment, ça peut... Et c'est pas les deux sont compréhensibles en fait. Trouver un petit peu. Donc je pense qu'en tant que leader, si t'as ça dans tes équipes, c'est de faire peut-être un meeting. Et oui, parce qu'il faut quand même des fois en faire, pas pour rien, mais en disant bah voilà, c'est quoi qui vous motive dans ce projet, c'est quoi qui vous démotive, est-ce qu'on ferait des paires de deux personnes pour travailler sur une problématique précise. Et puis justement, je pense en fait, ceux qui sont surmotivés, ben eux, leur travail, ça va être d'apprendre à réussir à motiver d'autres. Mmh. Et si tu es sous-motivé, ça va, ben ton travail, c'est d'accepter en fait, d'être pris dans cet élan de motivation. Après, tu peux pas, je pense, forcer quelqu'un qui n'arrive pas à suivre, etc., d'arriver au niveau 2 en fait. Et puis je pense que c'est ça aussi en tant que, si t'as une équipe comme ça en tant que leader, je pense que ce qui est important, c'est de pas amener dans ton discours des points de comparaison. Ça veut dire, tu vois, en disant ah mais tu vois lui nanana, ben tu pourrais faire en soirée comme eux, ou tu vois, ou de l'autre sens, en disant ah ben tu comprends, tu vas un peu vite, mais si tu regardes tel et tel, parce qu'en fait en parlant comme ça, je pense des fois chez les gens, ça peut aussi amener une frustration peut-être inconsciente, mais qui peut aussi grandir dans un autre sens. Donc plutôt que d'essayer d'amener de la comparaison, même si c'est des points en fait où tu veux de recenser des choses que les gens connaissent, plutôt d'amener un peu un common ground, un terrain commun.
Un terrain commun,
un ouais, terrain c'est ça, commun. Je
pense. Une base commune.
Voilà. Peut-être en mettant des short term.
Bon, bientôt, let's talk leadership, bientôt c'est en anglais en fait ce podcast, c'est pas l'histoire.
En mettant des buts, des objectifs à court terme qui vont permettre justement à se démotiver de se réjouir en fait d'avoir réussi à quelque chose. Et ceux qui motivent, c'est souvent une envie de achievement. Comment on dit achievement ?
Accomplissement.
Ah, d'accomplissement. Et du coup, en fait, c'est peut-être là que ça va aussi se rejoindre. Je suis partie un peu dans tous les sens, parce que c'est le freestyle, mais en gros, je dirais justement éviter un langage trop comparatif dans les gens de l'équipe, donner un terrain commun avec des objectifs à court terme, et puis pourquoi pas justement faire travailler sur des projets en commun quelqu'un qui est surmotivé et qui l'est pas assez pour trouver un équilibre, mais faire attention à pas freiner et à pas surdémotiver.
Ouais.
Bon, c'est un petit peu... voilà, c'est un peu... C'est ce que c'est.
Ok. Cette conclusion était surprenante. Si je peux rajouter, moi, je pense que la dimension d'honorer, tu ne l'as pas spécifiquement nommé, mais d'honorer dans les différences. Moi, j'ai des gens avec qui je travaille sur des projets à moyen terme, sur une année ou quoi. Puis en fait, dans cette année, on n'a pas tous les mêmes saisons. Il y a des périodes d'examen où il y a tous les étudiants qui doivent... voilà, puis il y a des moments où d'un coup, il y en a qui changent de situation professionnelle. Puis en fait, d'honorer, dire c'est génial que vous ayez le temps, la motivation, l'espace pour faire ça. Mais n'ayez pas l'attente. Ouais, c'est ça, reconnaître. Puis encourager en fait les gens. Et puis pour ceux qui ont peut-être moins de temps ou moins de motivation pour des questions externes, dire c'est ok en fait que tu prennes un peu plus de temps. C'est aussi pour ça qu'on est ensemble, qu'on travaille en équipe. Mais se libérer là-dedans. Puis je pense que des fois, un des défis, c'est de vouloir absolument que tout le monde court au même rythme tout le temps. Mmh. Alors que c'est pas nécessairement réaliste.
Mmh.
On est de nouveau dans le rose, je crois. La prochaine question, elle est pour toi.
Allez.
Allez, moi, je prends mon verre d'eau, mais continue.
Ah, c'est-à-dire que c'est moi qui dois la poser.
Ouais, je crois.
Ok. Ah oui, absolument. Alors, comment continuer avec un projet si on n'a pas l'impression qu'il s'inscrit dans une vision plus large ?
Plus, je me souviens, la personne qui a posé cette question, elle était dans le bureau ici. Et puis, elle me disait, j'ai un projet incroyable, et puis j'ai envie de le mettre en avant, mais comment je peux mettre ce projet en place, sachant que dans mon contexte, ce projet, il n'est pas forcément compris, ou pas forcément valorisé, ou pas forcément... Et c'était dur à répondre, en fait. Parce que je crois très fort dans le principe d'une saine soumission. Et puis je disais à la personne, mais j'ai l'impression qu'il faut d'abord que tu fasses valider en fait ton cœur et ton projet avant de foncer dans le projet. Maintenant, cette réponse, elle est aussi potentiellement nuançable, dans le sens où c'est aussi possible que tu mettes en place les prémices de ton projet pour que ton projet soit validé en fait. Des fois tu rêves d'un truc, puis tu as de la peine peut-être à l'exprimer.
Ou que les gens comprennent mieux ce que de
exactement,
quoi il s'agit.
Exactement,
tu dis, mais c'est quoi, palpable.
C'est ça, ouais. Je vais commencer un peu le truc, comme ça vous voyez de quoi je parle. Et puis une fois qu'on est là-dedans, on peut reparler du truc. Mais à mon avis, je pense que le conseil que je donnerais et que j'ai donné en l'occurrence, c'est de vraiment clarifier les enjeux et le pourquoi du projet. Souvent, quand on est un petit peu dedans puis on rêve, nous on est comme convaincu par notre projet. Mais pourquoi on fait ce projet en fait ? C'est quoi les buts ? C'est quoi les enjeux ? Qu'est-ce qu'on pense que ça va apporter ? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant ? Et avec cette personne, c'était ça. Quand il parlait de son projet, j'étais là, mais en fait, il ne faut pas t'aller trop dans les spécificités de ton projet, mais plutôt dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça va apporter. Parce que, en l'occurrence, dans son contexte, j'étais convaincu que s'il apportait ça, les gens allaient dire bah oui, on a envie de vivre ça, on a envie de voir ça.
Donc, parce que la question là, c'était genre si on n'a pas l'impression qu'il s'inscrit, donc c'est ça en fait, un ressenti que ça peut s'inscrire dans une vision plus large. L'idée ce serait de prendre le projet à peine palpable pour que les gens puissent l'identifier. Ça me fait penser un petit peu à, au monde merveilleux des startups. Quand t'as un entrepreneur qui a un projet et justement lui, c'est son bébé, tu vois, il en rêve jour et nuit, il fait des business plans à foison, il est là à prendre des contacts, trouver des investisseurs, etc. Et merci. Et on va leur dire, eux, ces entrepreneurs, ils vont devoir apprendre à faire un pitch. Donc vraiment, devoir décrire leur projet en 1, 2, 3 minutes. Tu définis le temps, il y a tellement de théories aujourd'hui. Mais qui va répondre à la vision, qui va répondre à ton marché, qui va répondre à quels sont tes besoins, pourquoi ou comment. Et puis, pourquoi pas faire, si on parle encore un petit peu dans ce côté plus entrepreneurial, un prototype. Et ce prototype en fait va permettre de trouver des investisseurs et donc peut-être de trouver en fait des gens autour de toi qui sont convaincus avec toi. Mais si je pousse la question, c'est-à-dire imagine, t'as fait ton pitch, t'as ton prototype, t'arrives devant un merveilleux public et puis en fait ces gens te disent c'est vraiment bien mais c'est pas pour ici, à ce moment-là.
Alors là, on est dans une hypothèse avec un projet dont je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Mais ma première réaction, ce serait de dire « soumets-toi ». Ma première réaction, ce serait celle-ci. « Soumets-toi, fais confiance à ces personnes. » Surtout s'ils disent « c'est un bon projet, on voit ça, on le valorise, mais on a l'impression que ce n'est pas le temps. » C'est « soumets-toi ». Mais tu peux te soumettre aussi, ce n'est pas simplement dire « oui, d'accord, puis je me tais, puis… » Ça peut dire, ok, mais quand est-ce qu'on en reparle alors de ça? Ou bien, qu'est-ce qui explique que c'est pas le temps? Aidez-moi à comprendre. Mais je pense que c'est vraiment important. Surtout si on est aligné sur une vision plus large et plus globale.
J'aime ça. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension dans notre société de ce que veut dire la soumission. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des soumissions qui sont saines. Et j'irais peut-être même un pas plus loin. Je dirais, soumets-toi. Tu vas me dire, ouais, peut-être pas forcément. Je te dirais, ok, mais rebelle-toi pas.
Ouais.
Tu vois, genre. Parce que je pense que, on pourrait faire toute une série sur la rébellion, ça peut être sympa. Mais je pense que,
tu vois, d'abord... On finit une saison, là.
Grave, on est en vacances. Ok, on keep ça quelque part.
Et on continue.
Allez.
Sabine.
Yes.
Comment implémenter une culture d'équipe quand on n'a pas encore forcément une équipe en soi? Donc, je te mets le contexte, tu travailles pour un super... un super gars, comme moi par exemple, t'as une super responsabilité, t'as une vision incroyable, t'as des objectifs incroyables, tu sais que c'est le top et puis que ça va vraiment servir ce qu'on est en train de faire. T'as une idée de comment tu veux travailler avec ton équipe, tu te projettes, tu dis on aura les soirées, on rigolera, on mangera de la pizza ou des salades, whatever, des graines si t'es vegan. Toujours est-il, on se balandera en Birkenstock, ce sera le fun.
Et... Je suis team Birken, on se calme.
Puis la réalité, c'est juste que t'as pas d'équipe encore. Mais toi, tu rêves d'une culture et tout ça. Et puis voilà qu'il y a une personne qui vient, puis qui dit ah pourquoi pas, mais comment ça se passe? Comment est-ce que tu transmets cette culture? Comment est-ce que tu communiques cette culture à la personne numéro 1 ou aux deux premières personnes qui viendraient vers toi? Ce serait quoi tes conseils?
Je pense que déjà, ce qu'il faut savoir sur la culture, c'est que c'est extrêmement dur de changer une culture une fois qu'elle est mise en place. Et en fait, une culture se met en place très rapidement et souvent presque inconsciemment. Je m'explique. Tu prends l'exemple d'un... je vais pas prendre cet exemple-là. Je prends l'exemple d'un pays, mais c'est trop large. Prenons l'exemple juste d'un pays pour expliquer que ça, c'est difficile de changer. Tu peux pas aujourd'hui être étranger, débarquer en Suisse et dire « Ok, les gars, la fondue, c'est sympa, mais moi, j'aime pas le fromage, donc dorénavant, c'est couscous à gogo, plat national. » Tu vois, tu peux pas changer une... C'est complètement extrême. Donc, une culture extrêmement dure à changer. Donc, quand t'as pas encore d'équipe, mais que t'as un projet, il faut que tu sois déjà conscient de la façon dont tu penses à ton projet, dont tu rêves à ton projet, dont tu le mets par écrit, dont tu le communiques. Déjà là, en fait, t'es en train de créer une culture. Je vais te donner l'exemple. C'est un ami, il avait un projet, il avait un projet de créer une nouvelle structure. Et il était en recherche d'équipe. Et puis, il dit, on a des gens autour de la table, mais... Et on lui dit, ah, fais attention à la culture. Puis il dit, oui, alors on va essayer de mettre des valeurs en avant, on veut être dans l'hospitalité. Et je suis là, ok. Et il fait, ouais, d'ailleurs, dans cette soirée, ben, on a décidé de prendre un temps où on a juste mangé ensemble. Ensuite, on s'est dit qu'on allait raconter un peu chacun notre semaine. Et en fait, mais déjà là, en fait, t'es en train de faire une culture. T'es en train de définir que tes meetings ou vos rencontres, elles sont définies autour d'un peu de nourriture et de partage. Et en fait, je pense, c'est pour ça que je dis, des fois, c'est inconscient, c'est que la première fois que tu vas avoir le premier membre de ton équipe et que tu vas te poser avec, dans la façon dont tu lui communiques, tu vois, est-ce que tu vas être en mode défaitiste? Est-ce que tu vas être en mode rêveur? Est-ce que tu vas lui dire, est-ce que tu as des idées? Parce que si tu lui dis ça, ben, tu mets déjà en place ce côté très créatif plutôt que très micromanagement. Si tu dis, bah, confronte-moi plutôt que c'est comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, rien que là, dans la façon dont tu vas parler, cette culture va être mise en place. Donc, on peut aller plus loin et puis dire les réponses. Donc, bien sûr, il faut que tu penses à tes valeurs, il faut que ça soit reflété, il faut redire la vision sans cesse, il faut redire les slogans, entre guillemets, que tu veux mettre en place dans ton projet sans cesse, parce que c'est ça qui va faire que ça va être implémenté. Mais dans ta façon d'agir, de parler, dès la première fois, tu mets une culture en place.
J'aime beaucoup ce que tu dis, et en fait, pour moi, ça me fait penser qu'il y a toujours une culture, en fait. Même quand tu l'as pas encore verbalisé, tu l'as pas encore clarifié, tu sais pas vraiment tes slogans, tes trucs, en fait, il y a déjà une culture, puis je dirais, ben, prends conscience de ta culture qui est déjà présente, ou essaye de prendre conscience de ça, essaye de vivre, d'incarner cette culture. Je pense que c'est super important. Et pour moi, c'est aussi le piège de ne pas penser que la culture, elle va commencer quand les autres vont arriver, en fait. La culture, elle est déjà là. Et puis du coup aussi de se dire, est-ce que je le vis, en fait? Est-ce que j'incarne cette culture? J'aimais bien ce que tu disais avec l'hospitalité. C'est une bonne idée dans l'absolu, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait 6, 10, 15, 30 personnes pour commencer. Est-ce que déjà, moi, je le vis, ça? Comment est-ce que je le vis pour pouvoir embarquer d'autres avec moi?
Je te prends juste un exemple aussi. C'est la question du langage. Mais les mots que tu vas utiliser, dont comment toi tu vas parler de ton projet, sans même qu'il y ait d'équipe, va déjà définir une culture. J'aime bien prendre cette image de culture d'entreprise. Moi, le jour où j'ai débarqué dans une entreprise très sociale, la première semaine, j'ai passé mon temps à écrire des mots que je ne comprenais pas dans un calepin, pour à la fin de la semaine aller vers mon directeur en disant, peux-tu me donner une définition? Parce que j'arrivais d'un milieu très business, très entrepreneurial, et ça n'a rien à voir avec le langage, parce que tu as un vocabulaire qui est propre. Et du coup, quand tu es en train de créer ce projet, n'oublie pas que tu es en train de définir aussi un certain langage, et que ce langage là ben, il va être très très dur à changer. Donc en fait, comme tu dis, il est déjà là avant même que tu aies contact avec la première personne.
C'est bon, j'aime beaucoup ce que tu dis. On est sur la culture, je te pose encore une question là-dessus. On arrive gentiment à la fin des questions. Comment gérer justement la question de la culture quand on est en situation de croissance, quand il y a beaucoup de monde ou bien simplement du monde de façon continue qui arrive? Comment est-ce qu'on peut préserver ou protéger notre culture?
Je pense pour protéger la préserver, il y a un step, mais ça va pas du tout aujourd'hui.
Amen.
Amen.
T'es anglophone, hein,
Il y a une chose à faire en amont, à anticiper en amont, c'est de s'assurer que les gens qui sont dans notre projet soit complètement imprégné de cette culture. Parce que en tant que leader ou équipe de leadership, je vais pas pouvoir m'assurer si c'est une croissance, par exemple, en termes de personnes, hein, je pense que c'est ça dont on parle pas de choses, je pense que c'est en termes de nombre de personnes, de gens qui rejoignent le projet, etc. Je peux pas me dire, je vais compter uniquement sur 1, 2, 5, 10, 20 personnes, selon de nouveau les proportions du projet dans lequel on parle. Et c'est pour ça que je dirais qu'il y a un pas à anticiper, c'est de s'assurer qu'en fait, que cette culture, que notre vision, que les valeurs qu'on veut mettre en compte, ça soit pas uniquement les gens qui gravitent dans le cercle de leadership, mais que ce soit vraiment les gens qui font pleinement partie du projet, qu'ils soient imprégnés de ces cultures, parce que eux ensuite sont aussi ambassadeurs de cette culture. Donc il y a vraiment cette notion d'ambassadeur qui doit être comprise et du coup être travaillée en amont. Ça doit pas être, tu vois, tu dois pas mettre d'objectifs, oui, il faut qu'aujourd'hui 3 personnes débarquent dans mon bureau en me disant tel ou tel. C'est vraiment un ressenti, c'est une manière de vivre, c'est des valeurs qui sont mises en avant, c'est des histoires qu'on va entendre, des gens qui vont se voir à l'externe. Voilà, bon, nous on parle pas beaucoup d'église parce que c'est aussi ce qu'on vit, mais dans le cadre du travail, c'est pareil. Comment est-ce que les employés, les collègues vont s'imprégner de cette culture? Et puis en fait, si elle est complètement imprégnée et vraiment bien mise en place, bien comprise, bien vécue, vécu, je pense que ça va un petit peu aller avec le flow, tu vois, ça va se faire de façon naturelle dans la multiplication des croissances. Maintenant, quand on est vraiment en train de vivre une transition, en tant que leader, je pense que ça va être important de rappeler quelle est notre culture, vraiment la verbaliser. Hein. Des fois, on dit rappeler, on dit que c'est un petit peu un concept. Non, verbaliser, en fait, nous, c'est ça qu'on veut vivre, les valeurs qu'on veut vivre, c'est ça, on va mettre ça en avant. Et puis, pas juste les dire, mais les vivre. On reprend l'exemple d'hospitalité. Et chez nous, on veut vraiment vivre l'hospitalité, c'est un trait de qui on est. Donc, en fait, tous les samedis soirs, pendant les 6 mois à venir, rendez-vous à la maison pour un barbecue. Enfin, j'imagine qu'on est dans un pays ailleurs que la Suisse, parce que 6 mois pour les barbecues, c'est
barbecue,
chaud quand même,
bon,
tu vois.
6 mois de barbecue, ce serait là.
Mais oui, ça veut dire que ça va demander du temps. Yeah. Et je pense que ce temps, ben, c'est ce qui va permettre une transition pour une culture saine qui va rester identique à ce qu'on a voulu depuis le début.
Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis et...
Merci.
C'est bien même ce que tu dis. Merci aussi pour le passage. Mais je crois que c'est un truc de réaliser que, en fait, dans une certaine mesure, la culture fait elle-même le travail de se répandre quand elle est bien vécue. C'est ce que tu disais d'avoir des ambassadeurs, c'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai pas forcément toujours besoin de revenir parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de le vivre, en train de l'incarner. Et du coup, il n'y a pas un seul émetteur de cette culture, mais ça devient une ambiance finalement, ça devient un parfum ambiant. Quand les gens arrivent, ils expérimentent certaines choses. Et je crois que ça, c'est vraiment, vraiment important. Sinon, on risque de tomber dans du micromanagement, on risque de faire du forcing sur la culture ou quoi.
Et ça, c'est pas très bien.
Et ça,
on n'aime pas beaucoup.
C'est pas bien. Non, ça, c'est pas bien du tout. Donc, de veiller à ça. Et du coup, pour juste répondre quand même aussi à la question de la croissance, c'est de veiller à qu'est-ce qu'on estime être des bons marqueurs de croissance. Si c'est juste plus de monde qui vient, c'est bien, c'est une forme de croissance. Mais est-ce que ces gens intègrent ? Est-ce qu'ils comprennent ? Est-ce que nous, on a aussi, on le disait avant, la culture, des fois, elle n'est pas forcément tout à fait conscientisée ou bien intentionnelle. Est-ce que nous, on ose faire le pas de dire, mais en fait, ça, c'est vraiment des traits de culture. Puis d'autres éléments, c'est bonus, en fait. C'est top, mais ce n'est pas ce qu'on veut qu'ils nous définissent.
On avait fait un podcast sur la définition du succès. Je pense que ça reprend un petit peu ça aussi.
Bien.
Ouais, trop. Trop bien. Bon, on va terminer avec une question.
Yes.
Méga profonde.
Et j'ai les mêmes questions que toi,
je sais, si tu veux pas, mais j'aime bien parce que c'est vraiment, tu sais, matériel technique, 2 points. Genre, moi, je sais d'avance, c'est pas moi qui réponds à cette question, tu vois. Donc, très grosse avancée niveau du matériel, de la qualité des podcasts, sur quoi et quel matériel vous utilisez.
Ouais, c'est ça. C'est, ça m'a fait marrer parce qu'en fait.
On vous laisse les liens en bio, non, tu sais.
Et il y a des prix, si vous passez par nos liens, on a une commission. C'est pas du tout vrai, il n'y a pas de commission.
Utilisez le hashtag.
Citez-nous, les gars. Non, c'est pas vrai. Non, la réalité, c'est que moi, j'ai reçu un message de quelqu'un, je m'attendais pas du tout. Hey, Yves, j'écoute le podcast. Je suis là, ah, oh, ok, je savais pas que t'écoutais le podcast. Oui, avec un ami du Tessin, donc qui est pas forcément francophone. Et vraiment, cet ami, il me disait au début, il avait un peu de la peine à cause de la qualité. Et puis maintenant, il apprécie, puis il trouve que c'est bien. Sur quoi est-ce que vous travaillez, justement? Et du coup, pour te dire, on est très simple. Il y a certaines des vidéos qu'on a faites qui étaient faites même uniquement avec un téléphone. Donc, au niveau vidéo, en tout cas, faut pas aller trop trop loin. On a aussi des gens qui font de la photo, qui font de la vidéo, puis qui ont un peu plus de matériel, mais c'est très très basique. Mais une des choses qu'on nous a rapidement dit, c'est que pour une bonne technique, il faut un bon micro. Donc, on travaille avec des micros qui sont très abordables en termes de prix, qui sont très bien aussi, qui sont chez Rode. Si tu veux, le modèle, c'est NT USB Mini, si jamais. Et puis on a là, c'est un autre pour le coup.
Ah bon, je t'ai dit, c'est pas moi la question technique.
Mais du coup c'est ça. Et puis on a des gens qui font un superbe job aussi au niveau de l'editing. Merci Laël, big up à toi.
Si jamais il est,
on apprécie.
You, Laël.
De l'autre côté, ouais,
you.
C'est ça. Donc c'est ça.
J'ai essayé de tourner.
Tourne. Hop, hop, Laël.
Mais c'est ça. Et puis peut-être juste pour encourager peut-être des gens, on l'a dit au début, puis c'est une des choses pour lesquelles on a voulu faire ce podcast, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de ressources en français. Et puis à un moment, c'était vraiment un défi pour nous de se dire, est-ce qu'on attend d'avoir tout le matériel pour faire un studio, pour faire des trucs, ou bien est-ce qu'on y va un petit peu...
À la one again,
à l'arrache. Et puis on a préféré, c'est ma femme qui dit ça souvent, elle l'a entendu de... Tu vois, toi, c'était ton mari, moi, c'était ma femme, tu vois. Fait vaut mieux que parfait. Et puis en fait, on s'est dit, on va le faire avec les moyens du bord. On apprécie que vous appréciez aussi. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. En vrai, aujourd'hui, au niveau technologique, juste 2 téléphones, ça fait déjà un super bon taf. Donc voilà. Merci. On va s'arrêter là ?
On va s'arrêter là.
Cool. C'est quoi la suite pour les stocks ?
Ben, là, il y a l'été. Donc, piscine.
Barbecue, on n'a pas 6 mois. Hein, donc,
ouais. Non, mais en vrai, comme on dit à chaque fois, restez connectés. Il y a des beaux plans pour le reste de l'année.
Yes.
Des idées de thèmes, des idées de conférences aussi.
Comment
Donc, on ne vous en dit pas plus. Clin d'œil, clin d'œil. Mais restez là. Bel été.
Yes, bel été à vous. Merci de nous avoir suivis à fond. Et Sabine, ça fait plaisir de faire des podcasts avec toi.
Ouais, ça faisait un moment. Beaucoup, hein.
Yeah.
Franchement, on fait un bébé et on revient, on arrête les podcasts. C'est quoi cette idée ?
Bah ça, c'est ton choix, hein, ouais. À toi de voir. All right, guys. Hey, we love you. Merci.
Ça veut dire,
bonne
on
suite.
Vous aime.
On vous aime. À bientôt.
Ciao.
Ciao.